Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour, répétition générale en Espagne avant les législatives de décembre prochain. Les électeurs doivent se rendre aux urnes ce week-end pour des élections régionales et municipales qui auront valeur de test pour le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez. Mais malgré une économie qui résiste et des mesures sociales, le bloc de gauche est en crise et en pleine recomposition à Madrid. Diane Cambon.
Tensions, disputes, débats polarisés entre candidats, les élections municipales et régionales partielles espagnoles du 28 mai se déroulent avec l'intensité d'un scrutin national. Sorte de premier tour avant les législatives de décembre prochain, les partis politiques sont dans les starting blocks. Le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, espère consolider son pouvoir alors que ses alliés parlementaires se déchirent. Ces élections vont être un premier test dans les urnes pour le parti Sumar, mené par la ministre du Travail, Yolanda Díaz. Son éruption sur la scène politique risque d'affaiblir le parti Podemos et sans doute aussi le parti socialiste, selon l'observateur politique Javier Vidal-Folch.
Sumar se positionne favorablement au sein de la gauche socialiste. Une position qui contraste avec celle de Podemos qui arrive à ces élections minée par le bruit des confrontations. C'est un parti qui s'est fait plus d'ennemis que d'amis. Aujourd'hui, Podemos est en plein déclin et personne ne pense qu'il va se renforcer électoralement. S'il parvient à maintenir son score, ce sera déjà positif pour ce parti.
Avec une gauche fracturée, les socialistes cherchent à mettre en avant leur bilan social et économique, comme l'électricité moins chère, la baisse de la TVA pour les produits de première nécessité, les aides financières ou la facilitation de l'accès au logement. En vain, la balance ne penche pas en faveur des socialistes. Les derniers sondages prévoient un coude à coude serré entre le Parti populaire et la gauche, comme l'explique Pablo Simón, politologue et professeur à l'Université Carlos III de Madrid.
Le 28 mai, de nombreux facteurs vont entrer en jeu. 11 régions sur 17 ont convoqué des élections régionales, dont 9 sont dirigées par des socialistes et seulement 2 par la droite. La Rioja, l'Aragon, la région de Valence et les Baléares sont les 4 communautés autonomes dirigées par la gauche, où le résultat peut être le plus imprévisible. Ce qui va se passer dans ces régions, notamment à Valence, peut être révélateur de ce qui risque de se produire au niveau du gouvernement national dans 6 mois. La stratégie du Parti populaire est d'attaquer la gestion de la gauche. Le leader de la droite, Alberto Feijóo, met en cause sa crédibilité autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son parti.
Pour le nouveau dirigeant de la droite, Alberto Feijóo, ex-président régional de Galice, il s'agit en effet d'asseoir sa légitimité au sein de sa formation. Il doit notamment tenir à l'écart l'extrême droite, même si tout porte à croire que sa formation aura besoin du parti Vox pour diriger des régions ou des municipalités. Vox a maintenu un profil bas durant toute la campagne électorale, mais il compte bien revenir sur le devant de la scène le jour des résultats, se présentant comme un faiseur de rois, explique le politologue Pablo Simón.
Vox est en lice avec des candidats peu connus du grand public, mais il aspire à être décisif dans la formation des gouvernements de droite, comme ce fut le cas en Castille et León, et surtout il aspire à former des coalitions dans de nombreuses municipalités.
La droite, qui cherche à récupérer les électeurs séduits par le discours radical de Vox, notamment sur des questions comme la défense de l'unité nationale espagnole, s'est engouffrée dans la polémique autour de la candidature d'anciens terroristes de l'ETA sur les listes municipales des indépendantistes du parti Bildu au Pays Basque. La candidate conservatrice à la région de Madrid, la présidente sortante Isabel Ayuso, n'a pas fait dans la dentelle en parlant du retour de l'ETA 10 ans après sa dissolution et des connexions de la gauche avec les terroristes. Bildu ayant été un allié parlementaire durant le mandat de Pedro Sanchez. Pour l'observatrice politique Soledad Gallego, l'irruption de l'ETA dans le débat politique est un piège électoral de la droite qui a éclipsé les véritables débats de ces régionales et municipales.
Je suis extrêmement surprise que l'on continue à polémiquer sur le TA dans une élection régionale et municipale alors qu'il y a énormément d'autres problèmes à résoudre au niveau de ces municipalités et de ces régions. C'est un piège électoral de la droite dans lequel tombent tous les médias, alors que je crois profondément que les électeurs attendent des solutions pour des problèmes réels, comme la santé, l'éducation, le problème des transports, la pollution. Ce sont ces thèmes qui importent, mais ils ne sont pas traités.
Reste maintenant à savoir quel impact dans les urnes aura le bilan de la gauche après 5 ans de pouvoir et si les électeurs prendront en compte la résistance de l'économie espagnole avec une dynamique croissance à hauteur de 5,5% l'an dernier, malgré un contexte international compliqué. On the screen says don't make plans, I broke. No, no, this can't be right. I know the time is tight. I've only just been paid 3 weeks, 5 days till I've seen. Et si retirer de l'argent en espèces devenait un luxe? C'est l'impression qu'ont les Belges depuis quelques années. Le nombre de distributeurs automatiques de billets dans le royaume ne cesse de diminuer. Il y en avait encore plus de 6000 il y a 2 ans. Il n'y en aura plus que 4000 fin 2025. Certes, les paiements par carte, en ligne et sur téléphone se multiplient, mais c'est justement de fracture numérique qu'il est question. L'accès aux billets de banque doit-il être garanti à tous les citoyens? C'est le reportage à Bruxelles de Jean-Jacques Herry.
Dans les 3 sas donnant accès aux distributeurs de billets en plein Bruxelles, 8 personnes font la queue serrée l'une contre l'autre. C'est l'habitude pour Brigitte.
C'est devenu compliqué. En général, on fait 1 ou 2 kilomètres pour avoir de l'argent. Ils ont fermé les banques au fur et à mesure. Forcément, à tous les points, il y a beaucoup de monde qui attend. Mais je ne sais pas comment les personnes âgées qui n'ont pas de moyens de locomotion ont encore du cash.
Selon les banques, le besoin de cash est moins important qu'auparavant. Il a diminué de moitié ces 10 dernières années. Selon la Fédération belge du secteur financier, seuls 45% des paiements dans les magasins belges se font aujourd'hui en cash. La majorité d'entre eux se faisant par carte ou électroniquement ou encore numériquement via un téléphone portable par exemple. Alors il y a 3 ans, les 4 principales banques du Royaume se sont entendues pour fermer leurs distributeurs en agence et les remplacer par des appareils partagés, dits neutres, actuellement en cours de déploiement. C'est le projet Bateau-Pain. Il prévoit des distributeurs 2 fois moins nombreux qu'avant si l'on compare avec l'ancien parc de ces 4 banques. Mais tout est une question de rationalisation et de répartition géographique, justifie Vincent Bayer, le porte-parole de Bateau-Pain.
Il y a un déséquilibre en fait de l'offre de cash sur le territoire belge, avec beaucoup d'agences bancaires concurrentes qui sont concentrées dans des mêmes quartiers, avec en leur sein des distributeurs de billets qui sont aujourd'hui largement sous-exploités, étant donné cette diminution du cash en Belgique, alors que finalement il en manque ailleurs, là où les gens en ont vraiment besoin. Donc l'idée est de revoir la cartographie de l'offre de cash en Belgique et de la rendre adaptée à la réalité des besoins en cash aujourd'hui. Donc in fine, il y aura moins de distributeurs de billets, mais ce n'est pas pour ça qu'ils seront moins accessibles, au contraire.
Le sujet de l'accès au cash étant devenu éminemment politique, un protocole d'accord a été signé à la fin du mois de mars entre le gouvernement fédéral, les banques, dont celle partie prenante de Bateau-Pain, et la Fédération belge du secteur financier. Finalement, le plan de suppression du nombre de distributeurs est revu à la baisse, mais malgré tout, en 2026, il n'y aura plus que 4000 distributeurs répartis sur 2400 sites en Belgique, soit 2000 appareils de moins qu'il y a 2 ans. Dans ces conditions, faire mieux avec moins paraît utopique à Morgane Kubicki, coordinatrice de la communication chez Financité, une association en faveur d'une finance plus responsable.
On garde cette baisse énorme et on en rajoute quelques centaines pour faire semblant qu'on a travaillé à un accord pour une meilleure accessibilité au cash. Ce qu'on voit quand on analyse le protocole, c'est qu'il y a des communes qui seront très très mal couvertes par le nombre de distributeurs et qu'il y a des provinces qui sont complètement abandonnées. Par exemple, typiquement la province de Namur, pour les communes urbaines, donc où on doit être à moins de 2 km d'un distributeur à pied, on est à 85% de taux de couverture. Et on va rajouter combien ? 1 distributeur par rapport aux projections. et donc on ne peut pas vraiment dire qu'on a amélioré l'accès. Ça, c'est complètement faux.
De plus, pointent les associations de consommateurs, ce protocole d'accord n'a rien de contraignant. Elles souhaitent donc que la garantie de l'accès au cash en Belgique, un droit consacré par l'Union européenne, fasse maintenant l'objet d'une loi. Autre argument brandi en faveur du maintien d'un accès au cash, celui de la fracture numérique, car beaucoup de citoyens belges n'ont pas l'habitude et ne savent pas payer en ligne ou avec leur téléphone. Enfin, les associations évoquent le danger pour les libertés individuelles, avec la possibilité accrue de pouvoir connaître tous les faits et gestes d'un consommateur et de le suivre à la trace grâce à ses paiements électroniques et numériques.
Il était en tournée ce mois-ci en Moldavie. Le rappeur russe Noise MC est devenu une des voix anti-guerre parmi les artistes russes. Depuis plus d'un an, il multiplie les concerts partout, en dehors de la Russie, où se trouvent les exilés déracinés. Étienne Bouche a pu assister à son concert à Chisinau.
Sa nouvelle tournée s'appelle le Lac des Cygnes. La référence est évidemment comprise de tous. Le célébrissime pas de quatre de ce ballet star, c'est la mélodie du changement qui s'annonce. À l'époque soviétique, si la télévision diffusait Tchaïkovski, tout le monde comprenait que quelque chose ne tournait pas rond, que des choses se tramaient au sommet de l'État. Ce soir-là, à Chisinau, la scène s'illumine aux couleurs de l'Ukraine. Dans la salle pleine, un drapeau flotte dans la fosse. Parmi les spectateurs moldaves, de très nombreux émigrés russes, mais aussi des Ukrainiens. Noise MC, de son vrai nom Ivan Alexeyev, a grandi à Belgorod, à 40 km de la frontière. Plus jeune, il participait au festival de rap de Kharkiv. Dès le début de la guerre, il a pris position contre l'agression russe.
Je trouve qu'il est courageux. Il n'a pas peur d'être taxé d'agent de l'étranger.
Ça remonte à notre enfance, à notre adolescence. Tout le monde écoutait ses chansons avant que ce contexte politique n'oppose nos pays.
Lorsqu'il vivait encore en Russie, Noise MC était déjà un artiste contestataire, habitué des annulations de concerts aux motifs obscurs. Depuis qu'il a quitté son pays, il a donné de nombreux concerts caritatifs avec la chanteuse pop Monietochka. Les fonds collectés reviennent à une fondation polonaise venant en aide aux exilés ukrainiens. Logiquement, le rappeur de 38 ans a rejoint la longue liste des agents de l'étranger. En solo, il part à la rencontre de son public dispersé à travers le monde. À Erevan, Varsovie, Almaty, il retrouve une génération atomisée qui applaudit sa dénonciation de l'arbitraire et de la censure et qui attend que les cygnes se remettent à danser. La musique est énergique, l'ambiance bouillonnante, mais la soirée finalement assez triste.
We are facing nothing less than the collapse of the living world. To restore stability to our planet, we must restore its biodiversity. We must rewild the world.
On connaissait le Dry January, un début d'année sans boissons alcoolisées, ou encore le Movember, on se laisse pousser la moustache en novembre pour sensibiliser aux pathologies masculines comme le cancer de la prostate. Place désormais à un nouveau challenge citoyen qui nous vient d'Angleterre, le No Mow Way, littéralement un mois de mai sans tondre. Le mouvement invite les propriétaires de jardins à remiser leurs tondeuses au garage et à laisser ainsi leur pelouse en paix avec ses fleurs sauvages, ses herbes folles et ses insectes. C'est la bonne nouvelle cette semaine de Clémence Pénard.
Préserver activement la biodiversité sans rien faire, c'est possible et c'est ce que préconise l'association Plant Life au Royaume-Uni. Depuis 2019, elle encourage les Britanniques à ne pas couper l'herbe de leur jardin pendant tout le mois de mai. Et cette initiative commence à essaimer ailleurs en Europe. De nombreuses villes se lancent dans l'aventure cette année, c'est le cas en Espagne, en France ou en Belgique. L'idée est de compenser la perte de pâturage. Depuis les années 30, à cause de l'artificialisation des sols. Au Royaume-Uni, 7,5 millions d'hectares de prairies ont disparu et avec elles une grosse partie de la faune et de la flore. Au niveau européen, d'après une étude publiée dans la revue Science of the Total Environment, 65% des terres sur le continent auraient perdu leur capacité à assurer leurs fonctions écologiques. Alors le but de ce mois sans tondeuse, c'est donc de ne plus toucher à son jardin pour que les fleurs, les insectes et les oiseaux se déploient et aussi pour que les sols se régénèrent. Le mois de mai a d'ailleurs été choisi parce que c'est la période de l'année où les fleurs se mettent à faire du nectar, la nourriture des insectes pollinisateurs comme les abeilles. En fait, le gazon, c'est très vorace en engrais et en eau. Sans parler des produits anti-mousse et antifongiques ou encore des substances de désherbage épandues sur l'herbe. Au pays de Wimbledon et des gazons impeccables, le No Mow May représente un véritable changement de mentalité, non aux pelouses très entretenues, mais oui au réensauvagement des pâquerettes et des pissenlits.
Et chaque semaine, on retrouve une initiative inspirante à découvrir également sur les réseaux sociaux avec les vidéos d'Hunter.
Il y a bien longtemps, dans un royaume enchanté, une petite ligne de basse bien ronde.
Musique.
C'est vendredi, on termine en musique avec vous, Vincent Teval, bonjour.
Bonjour Frédéric.
On avait ouvert cette émission avec les élections en Espagne, on y retourne avec vous pour parler pop.
Les années et les modes passent, mais une chose ne change pas dans le paysage musical européen, c'est la vitalité de la scène pop espagnole, portée par une constellation de labels indépendants et plusieurs générations de musiciens enthousiastes. Carlos Caraballo est de ces jeunes auteurs-compositeurs qui reprennent le flambeau. Il l'a d'abord fait avec Collectivo da Silva, groupe de 7 musiciens formés à Grenade en 2017 et auteur de 2 albums ensoleillés et chaloupés. Aujourd'hui, Caraballo tente sa chance en solo avec un disque un peu plus introspectif, marqué par une grande diversité de styles et des sonorités plus synthétiques, mais avec un même amour pour les mélodies qui font mouche.
Descansar, tumbarme y mirar las estrellas. Me acuerdo de ti y empiezo a buscar alguna que pase y se pierda. Porque todo me recuerda a ti. ¿Qué tal si me dejaras vivir? Bonito jardín para descansar, tumbarme y mirar las estrellas.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous en podcast sur notre site RFI.fr et sur notre nouvelle appli Pure Radio et bien sûr toujours sur les réseaux sociaux. À bientôt.